Bonjour et bienvenue dans cette émission du 13 décembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais revenir sur la censure, une nouvelle fois, que j'ai subie de la part de YouTube, en posant la question de fond, faut-il boycotter YouTube ? Alors, je rappelle un certain nombre de données, qui est que depuis le début de la crise sanitaire, les plateformes et les réseaux en ligne, comme LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, jusqu'à ce qu'Elon Musk le reprenne, mais il continue à y avoir des choses discutables à beaucoup d'endroits, et YouTube, se sont piqués de censurer des contenus qui leur déplaisaient de manière totalement arbitraire. Et il faut rappeler que ce sont des plateformes qui font circuler des contenus, mais qui n'ont pas la responsabilité d'éditer les contenus, de les sélectionner ou de les trier. Ce sont des prestataires de services, gratuits pour la plupart, et c'est bien là où le bât blesse, et qui n'ont pas vocation à faire un travail éditorial ou de publication. Pourtant, cela a été imposé très rapidement et avec ce pli que j'ai déjà souligné, parce qu'il est tellement caractéristique, qui est que vous pouvez vous faire sanctionner pour un contenu sans qu'on vous dise précisément ce qui a posé problème et pourquoi. Et donc, les plateformes en question évoquent les règles de la communauté, mais exactement comme en Union soviétique, les procureurs évoquaient le code pénal. Et je rappelle que les gens se faisaient déporter au goulag sans savoir exactement ce qui leur était reproché, c'est-à-dire quels étaient les actes qu'ils avaient commis et qui étaient considérés comme étant coupables et quel article du code pénal cela aurait violé. Tout ce qu'on leur disait, c'est « vous avez enfreint la loi, voilà le code pénal et c'est pour ça que vous partez pour 10 ans en Sibérie ». Alors bien sûr, une censure sur Facebook ou YouTube n'est pas comparable à 10 ans en Sibérie. Par contre, on voit que c'est le même processus. C'est-à-dire que ces gens vous brandissent les règles de la communauté, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit d'argumenté. Et donc la seule possibilité que vous avez, c'est de faire recours en disant « je fais recours », mais là encore, désormais, sans même plus pouvoir dire comment et pourquoi. Et puis après, la plateforme statue une deuxième fois et c'est définitif. Et donc, depuis les débuts de la crise, ces plateformes ont développé des procédés qui violent de manière répétée, la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment ce qui a trait à la liberté d'opinion et d'expression, mais également les droits constitutionnels. Et le problème tient non seulement à ce que ces plateformes se soient arrogées ce droit de violer les droits constitutionnels et fondamentaux, mais aussi dans l'absence de réaction de la part de la collectivité dans son ensemble. Et là, on voit toute l'ingénierie sociale qui a consisté à faire croire que des gens aux opinions douteuses mettaient en danger les bonnes pratiques sanitaires du gouvernement. On a quand même fait des gens qui critiquaient les mesures ou qui choisissaient de ne pas se soumettre à une injection génique expérimentale, des alliés du virus, des assassins en puissance, des mauvais citoyens, des obscurantistes, des antisémites d'extrême droite. Enfin, il y a eu toutes ces catégorisations qui ont légitimé aux yeux du ventre mou de la population, c'est-à-dire tous les dociles et tous les gens qui ne sont pas intéressés au fait de réfléchir les réalités, de juste cautionner ça en disant, en d'autres termes, ma foi, si les complotistes se font censurer, ils n'avaient qu'à pas être complotistes. Alors, c'est intervenu très tôt, je crois que j'ai été un des tout premiers à voir mon compte LinkedIn, qui appartient à Microsoft, être supprimé. Pourquoi ? Parce que j'avais partagé des articles scientifiques. Vous savez que moi, je ne produis pas de science, par contre, j'ai la compétence de lire la science, de trier dans ce qui est produit pour distinguer ce qui tient la route de ce qui est frauduleux. Et donc, je n'ai fait que remettre, ou plutôt en circulation, des articles qui avaient été publiés par de très bons experts, ceux qu'on aurait mieux fait d'écouter, plutôt que les médecins de plateau corrompus à qui on a réservé le crachoir pendant les mois écoulés. Et donc, mon compte a été supprimé. Et impossible de faire recours, impossible de faire entendre raison. Et ensuite, j'ai évidemment été censuré à répétition sur Facebook pour les mêmes motifs, sur YouTube également. Et si Facebook est revenu sur cette pratique, simplement à cause du nombre de personnes qui partaient, qui fermaient leur compte, C'est malheureusement YouTube qui, à ce stade, est le bastion le plus virulent de la censure en ligne. Alors, je rappelle une fois de plus que YouTube appartient à Google, que Google est une émanation de la CIA et de l'État profond. Donc, on n'est pas dans un système commercial avec des entreprises qui font vivre des réseaux sociaux avec ce troc où c'est gratuit, mais en échange des collectes de données à votre sujet, à des fins publicitaires ou autres. On est dans l'ingénierie biopolitique qui cherche à asservir les populations dans le cadre du coup d'État planétaire, et YouTube est un des fers de lance de cette histoire. Je rappelle également que YouTube est sur la sellette aux États-Unis, parce que si l'Europe, pour l'instant, est complètement vassalisée et aux mains de gens que nous n'avons pas élus, comme Ursula von der Leyen ou Thierry Breton, mais qui se targuent de transformer l'Europe en Union soviétique 2.0, aux États-Unis, il y a encore une culture des droits fondamentaux, et donc, voilà, ça rue dans les brancards par rapport à YouTube. On sait à quel point les Twitter Files ont montré qu'avant le rachat par Elon Musk, le FBI, la Maison Blanche, la CIA, les pharma contrôlaient ce qui circulait sur Twitter pour mettre des obstacles ou supprimer les contenus qui contrariaient le plan sanitaire et à quoi ils servaient. Et donc, ça a quand même fait un certain scandale. Et actuellement, donc, c'est YouTube qui est sur la sellette. Les autres plateformes comme Facebook et Instagram le sont aussi, parce qu'en même temps qu'ils persécutaient les dissidents sur la crise Covid, ils ouvraient tout grand les vannes de la pédocriminalité, de la prostitution infantile et de l'accès à des contenus pédocriminels. Donc ça ne dérangeait manifestement pas les pouvoirs en place et ça ne faisait pas lever un sourcil à quiconque, mais évidemment que tout ceci étant mis en lumière, et notamment ce laxisme incroyable. Donc si vous osiez critiquer le vaccin, vous faisiez tomber dessus à bras raccourcis, mais si vous aviez envie de mettre des enfants en vente dans ce cadre de prostitution infantile, et ben ma foi, Facebook et Instagram, Meta pour le dire comme ça, n'avaient pas l'air d'avoir grand-chose à y redire. Et puis YouTube est sur la sellette à cause des violations répétées des droits constitutionnels et fondamentaux. C'est gravissime dans une démocratie, surtout dans une position presque monopolistique, hein, de dominance économique, qu'un acteur aussi important que cela se permette de telles dérives, au service bien sûr d'un agenda fasciste. Alors, j'ai appris à faire attention, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on devient aguerri et plus malin, donc on apprend qu'il y a des mots à éviter, on apprend qu'il y a des tournures de phrases à utiliser pour ne pas faire réagir les algorithmes, mais après, il subsiste évidemment une part d'arbitraire, parce que si ces systèmes étaient régis par quelque chose de logique et de rigoureux, bah, au moins on saurait à quoi s'en tenir. Mais le propre du totalitarisme, c'est qu'il laisse passer parfois des énormités, et puis parfois, il vous chope avec la pleine puissance de la répression pour un truc qui franchement aurait été anodin ou que d'autres font abondamment. Donc cette notion de pouvoir de manière arbitraire sanctionner est très importante au cœur du totalitarisme, et on le voit par exemple sur le plan judiciaire en France, où on sait comment précisément des crimes sexuels ou pédocriminels obtiennent le sursis, ou en tout cas des peines extraordinairement basses au regard de la gravité des faits, alors que d'autres, hein, comme la volonté de manifester de gens étiquetés comme étant à l'ultra-droite, ce nouveau concept très douteux à nouveau qu'on a sorti du chapeau, ben, eux peuvent choper 6 mois de prison ferme pour avoir eu l'intention de manifester. Mais le magistrat de Dijon qui avait mis sa fille de 12 ans en vente sur des réseaux pédocriminels, lui, il a eu du sursis. Voyez, et ça, c'est caractéristique de la dérive totalitaire. Et donc, c'est au sujet d'une émission consacrée à la pédocriminalité, notamment la compromission de nos élites, pas au sens des meilleurs, au sens de ceux qui détiennent le pouvoir de dire et de faire, que YouTube a décidé de me censurer. J'avais déjà fait des émissions précédemment sur ce thème qui n'étaient pas moins explicites. Dans celle qui m'a valu d'être censuré, je n'ai fait que citer des journalistes indépendants et des médias mainstream. Donc tout ce que j'ai avancé une fois de plus était sourcé, mais ça a eu l'heure de déplaire à YouTube. Alors voilà la réalité des choses. Maintenant la question se pose, est-ce que ça vaut la peine de continuer à publier sur cette plateforme ? Et en toute franchise, étant donné la nocivité fondamentale de ces pratiques, la réponse serait plutôt non. Il se trouve qu'il y a aussi un principe de réalité qui est que ce que nous publions sur YouTube, même si je suis très shadowbanné, c'est-à-dire que il y a une restriction de la circulation de mes contenus par rapport à ce qu'ils pourraient normalement faire ou ce qu'ils font sur d'autres plateformes. Donc ça veut dire que les algorithmes sont configurés pour restreindre la diffusion des contenus que je poste. Ils conservent, ils persistent malgré tout un pouvoir de pénétration assez fort au niveau de YouTube qui pour l'instant me dissuade de renoncer complètement à cette plateforme. Toutefois, je trouve que c'est important de marquer le coup. Donc ce que je vais faire dorénavant, c'est que je vais réserver YouTube en termes de publication de contenu à des choses qui correspondent plutôt à d'autres domaines d'intérêt qui sont les miens, comme les neurosciences appliquées ou l'anthropologie appliquée, qui ne sont pas des questions polémiques, qui sont des questions vraiment de compréhension et de connaissance générale de fond, mais qui peuvent avoir une utilité à l'heure actuelle par rapport à ce qui nous arrive. Et puis que le travail d'information que YouTube ne supporte pas, eh bien je vais le faire vivre sur les autres plateformes, celles qui tolèrent et encouragent le fait qu'il y ait une information véridique, honnête et sourcée qui circule, et me contenter sur YouTube de simplement nommer le fait que ce contenu existe et est mis en place ailleurs. Et évidemment que je crois qu'il faut tous nous encourager à déserter de plus en plus des plateformes comme celle-ci, parce que il faut aussi qu'il y ait une conséquence économique pour eux de la malhonnêteté et de l'inconduite dans lesquelles ils se sont engagés. Donc voilà ce qu'il me tenait à cœur de partager avec vous. Je vous donne encore quelques extraits de mon passage lundi chez Clémence Oudiakova de Toxin Média. L'émission a vraiment été chouette parce que c'est une vraie journaliste, elle fait vraiment son travail. Donc quand on est en mesure, en tant qu'expert, d'interagir avec un journaliste qui n'est pas juste là pour dire « Oh, vous êtes complotiste » ou « Oh, c'est pas ce qu'a dit Olivier Véran », évidemment que ça fait du bien. Et comme il s'agit de quelqu'un qui connaît très bien la situation, parce qu'un bon journaliste, il devient très connaissant de plein de réalités différentes, évidemment que ça a donné un échange tonique, intéressant, vivant, et où nous avons vraiment pu évoquer et mettre en lumière, une fois de plus, la réalité de la criminalité d'État contre les populations et les démocraties. C'est ça le fond du problème. Et donc, voilà, je vous invite, si le cœur vous en dit, à prendre connaissance de cette émission qui fait une trentaine de minutes, mais qui, je crois, énonce un certain nombre de vérités qu'il faut énoncer à l'heure actuelle par rapport aux réalités qu'on évoque. Je vous remercie et vous dis à demain pour une nouvelle émission. La Commission européenne l'a admis, les Nations unies l'ont admis.
La Commission européenne qui est elle-même touchée par cette corruption.
Oui, exactement. Mais en 2014, elle publie un rapport sur la Commission en Europe en disant « Le secteur de la santé est un des plus touchés, la corruption est généralisée ». Et 8 ans après, enfin 6 ans après, elle magouille de manière absolument éhontée au vu et au su de tous. Et donc tout ce qu'on avait fait émerger comme constat, oui, il y a un énorme problème de corruption, qui d'ailleurs ne se limite pas au système de la santé. Euractiv a récemment reflété une étude de Transparency International qui disait que le coût de la corruption en Europe, tout secteur confondu, c'est 1000 milliards d'euros par an. Donc aujourd'hui, nos sociétés sont corrompues de la cave au grenier, et notamment dans ce qu'il faudrait appeler un capitalisme de connivence. On fait croire qu'il y a un capitalisme, mais qui a une libre concurrence. Mais dans les faits, on réserve des marchés à certaines entreprises et on magouille pour favoriser certains intérêts au détriment d'autres. Et donc, dans le secteur de la santé, c'est totalement identifié. Et puis, tout d'un coup, quand il y a une occasion en or de faire un maximum de blé, et on parle ici de centaines de milliards d'euros de bénéfices, eh bien, tout le monde oublie que c'est un problème. Les quelques malheureux qui se permettent de le rappeler, comme moi, se font taper dessus à bras raccourcis. Et puis, on attend que ça soit l'après. On pond un rapport qui dira « Ah oui, c'est vrai que c'était quand même très mal géré et corrompu, comme ce rapport a changé. »
On voit des Delfrécy qui, après coup, émettent des regrets. Enfin, tout le monde émet des regrets aujourd'hui. On se range bien proprement, mais on en a quand même tous bien profité, visiblement.
Oui, et puis d'autant plus, et c'est là tout le point que je documente très soigneusement, c'est qu'on savait à chaque moment ce qu'il en était. Donc, l'excuse de dire « Oui, mais on ne savait pas à l'époque, c'était très compliqué, on est toujours plus intelligent. » Après, ne tient pas la route
l'excuse
une seconde.
L'excuse Agnès Buzyn, l'excuse Olivier Véran, l'excuse... Enfin, lui, il ne s'excuse même pas. L'excuse Delfrécy et les regrets, en fait, non, ça ne tient pas la route.
Tiens, la route. Dès janvier 2021, on sait que les vaccinés contaminent les autres. Donc tout ce qui s'ensuit jusqu'au pass sanitaire, le reste, ne tient pas une seconde.
Oui, c'est vrai. Finalement, comme vous dites, elle s'enclenche aussi avec des procédés qui sont de plus en plus contraignants. Et à un moment donné, je me demande si on va vraiment réussir à, justement, à se révolter ou à faire ce pas de côté, au moins pacifique, qui permettrait de continuer d'être ce que nous voulons être. Si on est de plus en plus étriqué, interdit de travailler parce qu'on ne peut pas, interdit d'aller à l'école, interdit de suivre des activités, de se déplacer, même d'acheter de l'essence pour pouvoir se déplacer en voiture. Enfin, on peut revenir à là, puisque tout passera par la carte bancaire qui sera elle-même numérisée, enfin, dans un même portefeuille européen. Donc finalement, on se dit, comme vous le dites, qu'il y a vraiment une course vitesse. On est à peu de choses près, on est peut-être malgré tout déjà tenu dans le filet.
Oui, et puis vraiment, alors ça, je crois que c'est vraiment ce sur quoi il faut ouvrir les yeux. Nous sommes dans un crime d'État contre la démocratie massif. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai co-préfacé avec Ariane Biran la traduction du livre d'un professeur en sciences politiques américain qui est le grand connaisseur du complotisme, et lui dit à chaque fois qu'on sort massivement l'étiquette de complotisme, c'est pour couvrir des crimes d'État contre la démocratie. Et c'est exactement ce dans quoi nous sommes. Donc nous avons des autorités criminelles, un système corrompu, donc vous savez qu'aujourd'hui 87% des Français considèrent que la classe politique est corrompue, sondage paru dans le Figaro avant-hier. Donc tout le monde sait qu'un énorme problème de probité, de corruption et de criminalité étatique, mais hein, c'est ce que disait Coluche, deux policiers ont été arrêtés, ah bon, ils ont été arrêtés par des voleurs alors ? Non, par d'autres policiers. C'est-à-dire que quand les autorités sont criminelles et corrompues, qui rétablit la justice et qui rétablit le droit ? C'est le problème qui nous est posé.
Eh bien merci.